Gloire au Seigneur. Merci frère Novaki. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très content que vous soyez là ce soir. Amen. Je suis extrêmement content que ma mère est là ce soir. Amen. C'est un grand plaisir de l'avoir avec nous. Une petite visite de quelques jours et ça fait du bien. Gloire au Seigneur. Je suis sûr que vous savez que depuis 1905, il est en fait interdit de faire des recensements religieux parmi le peuple français. On ne peut pas recenser, on ne peut pas poser des questions qui ont à voir avec la religion dans les recensements officiels du pays. Alors, parfois, c'est difficile à trouver des informations qui ont à voir avec le visage religieux de la France. C'est en fait aux associations privées de le faire. Et j'ai trouvé des choses intéressantes à propos de notre pays, à propos des Français et de la religion. Parmi les Français le pourcentage de Français qui déclarent avoir une religion, ils ont fait des recherches dans La Croix du 24 décembre 2004. Ils ont trouvé une moyenne de 73% des Français qui déclarent avoir une religion. 73% qui disent qu'ils ont une religion. Ça paraît comme beaucoup, 73%, qui disent qu'ils ont une religion. Ils ont fait une autre division. Ils ont essayé de voir parmi les Français actifs, ce que eux ils appellent actifs et inactifs. Et ils ont choisi un peu selon leur façon de voir. Ceux qui sont actifs, c'est tous ceux qui ont un emploi. Les inactifs, c'est les étudiants, lycéens, collégiens, mères de famille, retraités. Parmi les actifs, 69,3% des personnes déclarent avoir une religion. Parmi les inactifs, 77,5%. Fréquentation de la messe pour ceux qui se déclarent catholiques, indépendamment de leur pratique. De temps en temps, quelques fois par an, 24,6%. 24,6%. Des gens qui se disent catholiques, c'est seulement les catholiques, c'est pas toute la France, seulement parmi les catholiques, ceux qui y vont de temps en temps, quelques fois par an, 24,6%. Ceux qui y vont seulement pour les cérémonies et les grandes fêtes, seulement cérémonies et grandes fêtes, 46,2%. Quand quelqu'un se fait baptiser? Quand un petit enfant se fait baptiser, on y va. Quand il y a un mariage, on y va. Parmi les personnes qui se disent catholiques, ceux qui ne vont jamais à la messe, 16,4%. Et ceux qui vont une fois par semaine ou une fois par mois, c'est à peu près 12% qui vont au moins une fois par mois, c'est que 12%. Une fois par semaine, 7%. Ils ont aussi sondé au cours des dernières semaines, la pratique des catholiques. Et ceux qu'ils ont fait, qui a assisté à la messe ou prié, ou qui a lu sa Bible ou récité un chapelet, et ensuite rien, 56% des gens qui se disent catholiques au courant des dernières semaines disent qu'ils n'ont rien fait par rapport à ce qu'ils appellent leur religion. 56% n'ont rien fait. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas ouvert leur Bible, ils n'ont pas assisté à une messe, ils n'ont rien fait du tout. Pratique régulière le week-end. Encore une fois, est-ce que vous avez assisté à la messe, regardé la messe à la télévision ou prié? Et ensuite rien. Rien, 68% qui ne font rien pendant leur week-end. De gens qui se disent catholiques. C'est un peu l'image, c'est l'image du pays où on vit. Dans Le Monde 2, du 30 avril 2005, ils ont fait une comparaison entre les années 60 et 2004. Le nombre de personnes se déclarant catholiques dans les années 60, 80%. En 2004, c'était 64,3%. Ils ont aussi comparé l'ordination des prêtres par an. En 1950, environ 1000 par an, 1000 prêtres par an. Ordination de prêtres, 1000 par an. Actuellement, c'est-à-dire en 2004 ou en 2005, 120 par an. Dans Le Monde des religions, janvier 2007, quelle est votre religion si vous en avez une? Catholique, 67% en 1994. En 2007, 51%. Protestant, en 1994, 3%. En 2007, toujours 3%. Alors, il y a de moins en moins de catholiques. Les protestants, il n'y en a pas beaucoup, mais ils restent, selon ce sondage. La Croix, 28 décembre 2009, ils ont fait une comparaison en trois coupes différentes, 1987, 2001 et 2009. Catholique, 87, 75%, 2001, 69%, 2009, 64%. Les protestants, pendant les mêmes périodes, en 87, 1% des personnes sondées étaient protestantes. En 2001, 2%. En 2009, 3%. Alors les chiffres, on voit, sont un peu différents. Ça dépend de qui fait le sondage, parce que tous ces sondages sont faits par des associations privées. Mais là, ce qu'on voit, c'est, tandis que les gens semblent quitter l'Église catholique, l'Église protestante semble croître. Et j'ai lu que dans le milieu protestant, c'est en fait parmi les évangéliques et les pentecôtistes qu'ils voient la plus grande croissance. Et on remercie le Seigneur pour ça, parce qu'on est l'Église pentecôtiste unie de France, et on est le centre évangélique. Alors, on a les deux, c'est couvert. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Âge des personnes ayant une pratique religieuse au moins une fois par mois. Les 15 à 24 ans, 22%. 22%. 25 à 34, 12. 35 à 49, 10. C'est le plus bas pourcentage, en fait, cette tranche d'âge de 35 à 49 ans. 50 à 64 ans, 15%. 65 à 74, 25, et 75 ans et plus, 31%, qui ont une pratique religieuse au moins une fois par mois. Pratique religieuse au moins une fois par mois, maintenant selon les religions différentes. Catholique, 15% des catholiques ont une forme de pratique religieuse, au moins une fois par mois. Les protestants, 34%, c'est le plus haut en fait. Ils sont les plus actifs. Les juifs, 25%, musulmans, 32%, bouddhistes, 14%. Les protestants sont les plus actifs dans leur vie religieuse, dans la pratique de leur vie religieuse. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans Le Monde, la vie, du 21 mars 2003. Quelle est votre religion si vous en avez une? Protestant, en 2003, 2%. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que parmi la même question parmi les 18 à 24 ans, c'était 4%. C'est-à-dire, sur le tout de la population, 2% se disaient protestants. Mais pour les 18 à 24, c'était 4%. C'était deux fois plus que la représentation du reste de la population. Il y a des choses que je lis et que j'entends à propos de ce genre de choses, parce qu'on a souvent entendu que le monde devient de moins en moins religieux. Que la religion est en train de mourir. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ne croient en rien, les athées, qui disent on retient à peine les religieux et les fanatiques. On les retient à peine. Et la réalité, c'est que les deux sont vrais. D'un côté, il y a de moins en moins, les gens sont en train de fuir les grandes religions. Mais en même temps, les gens sont en train de se tourner à une religion qui est plus ferme, plus orthodoxe qu'auparavant. C'est-à-dire, ils sont en train de quitter ces religions qui ont décidé que la religion c'est une chose et la vie c'est une autre, et ils se retrouvent dans les religions où on dit que la religion et la vie c'est la même chose. C'est-à-dire une religion qui est plus une croyance qui est plus ferme, une croyance qui est plus costaud, une croyance qui est plus orthodoxe. C'est là où on retrouve les gens. Alors les gens sont en train de devenir plus orthodoxes d'un côté, et ils sont en train de rejeter le monde religieux qui dit religion et vie, c'est deux choses séparées, c'est deux choses différentes. Et ce que je vois, moi, dans ça, c'est l'opportunité. Ce que j'ai vu en lisant ces chiffres, c'est que il y a des gens qui sont en train de chercher. Par exemple, il y a un sondage sur le poids des différentes confessions que j'ai trouvé. Ils ont catholiques, protestants, autres religions, sans religion et ceux qui voulaient rien dire. Alors, sans religion, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en Dieu nécessairement. Mais ils avaient ces quatre catégories, catholiques, protestants, autres religions et sans religion. En 1986, ceux qui se disaient d'une autre religion, c'est-à-dire non catholique, non protestant, 2,5%. En 1994, 6%. En 2001, 7%. En 2003, 9%. C'est-à-dire ceux qui se retrouvent dans ce qu'on va appeler autre religion, ce groupe est en train de grandir, ce groupe est en train de croître. C'est-à-dire il y a des gens qui cherchent quelque chose. Et ce qu'ils cherchent, ils ne le trouvent pas dans le traditionnel. Ils ne le trouvent pas dans le traditionnel. Ils ne le trouvent pas dans des fois qui sont devenues un peu molles, qui ne veulent rien dire, des fois qui sont édulcorées, qui ne tiennent pas vraiment dans la vie quotidienne. Et je vois ça comme une opportunité pour l'Église. C'est une opportunité pour l'Église. Parce que ce qu'on apporte, l'Évangile qu'on apporte, C'est ce qu'ils sont en train de chercher, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. C'est ce pourquoi ils ont faim et soif. Je voudrais lire un verset. Marc 16, 15. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est une sorte de synthèse d'une douzaine de versets. Parce qu'on a cette opportunité devant nous. L'évangile que l'on prêche, c'est ce que les gens cherchent. Les gens qui ont une faim et soif spirituelle, et ils sont en train de chercher ce que nous, on a. Alors j'aimerais qu'on un genre de panorama de notre mission d'évangéliser le monde. Et l'idée qui est derrière se présente sous la forme d'une question, et c'est celle-ci. Comment vais-je aller? Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Comment vais-je aller? C'est ici la mission de l'Église. Personne ne le nie. Je crois que tout le monde le reconnaît, c'est la mission. Si on avait à le dire en une phrase, quelle est notre mission, on n'a pas à le mettre en une phrase parce que le Seigneur l'a déjà fait pour nous. C'est là, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On n'a pas à se poser, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu ailles dans tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Je veux que tu ailles dans tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez, on recherche toujours la volonté de Dieu. Et on la recherche d'une manière mystique. C'est quelque chose... On veut un buisson ardent. On veut une voix du ciel. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est là la mission de l'Église, d'évangéliser le monde. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on reste là. C'est pour ça qu'on vit ici. C'est pour ça qu'on n'est pas encore, rentré chez nous. On n'est pas encore rentré à la maison. Parce qu'on a un travail à faire. Et ce travail, c'est d'évangéliser le monde. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors encore une fois, on le dit, c'est la même mission. C'est la même idée, il le dit un peu, Matthieu nous le rapporte un peu différemment, mais c'est exactement pareil, il dit, allez faire des disciples dans toutes les nations, et n'oubliez pas, je suis toujours avec vous. Je suis toujours avec vous. Où que vous alliez, de quelque manière que vous le fassiez, je suis toujours avec vous. Alors qu'est-ce qu'il dit? Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est la mission de l'Église. De faire de toutes les nations des disciples. Et faites bien attention à comment c'est écrit. Faites de toutes les nations des disciples. Et il dit à ses disciples de faire des disciples. Aujourd'hui, on veut trouver des disciples. On veut aller chercher et trouver des disciples. Parce que c'est plus facile. On veut pas faire le travail de faire un disciple. On veut en trouver. Ce sera pas souvent qu'on va trouver un disciple. Et de toute manière, c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Il nous a demandé de faire des disciples. Il nous a commandé, j'ai dit demandé, mais il nous a commandé de faire des disciples. De faire des disciples. Et vous allez faire des disciples, vous allez les baptiser, et ayant formé ces disciples, et les ayant baptisés, vous allez ensuite leur enseigner à observer tout ce que j'ai prescrit. Tout ce que, par ma vie, par mon enseignement, par mes actions, tout ce que j'ai prescrit. C'est un peu comme un sandwich. Vous allez faire des disciples, vous allez les enseigner, les former, vous allez les baptiser, et de l'autre côté, vous allez les enseigner encore. Enseigner, baptiser, enseigner. C'est la mission de l'Église. Et si je suis l'Église, c'est ma mission. C'est ma mission à moi. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, Jésus, dans Marc 16, 15, dit « Allez prêcher la bonne nouvelle ». Et ici, on rencontre le mot « évangile ». Évangile, ça veut dire « bonne nouvelle ». Et Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». J'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pour tout le monde. C'est quoi la puissance de Dieu pour les sauver? C'est l'Évangile. C'est d'entendre, de comprendre, de recevoir et de faire confiance à l'Évangile. De faire confiance à la bonne nouvelle. C'est ça. C'est ça la puissance de Dieu pour le salut. Paul disait, j'ai pas honte de l'Évangile. Il n'y a que l'Évangile qui peut sauver l'homme. Il n'y a que l'Évangile qui peut sauver toute cette création. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8, Paul décrit l'Évangile. Il explique ce qu'est cette bonne nouvelle. Il dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors il dit, il va expliquer l'Évangile, mais dans Romains 1, 16, il dit, c'est l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et dans 1 Corinthiens 15, il dit, c'est l'Évangile par lequel vous avez été sauvés, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez. C'est-à-dire qu'il y a une continuation aussi. Il faut continuer dans l'Évangile. Il ne faut pas simplement rencontrer l'Évangile une fois, mais il faut vivre dans l'Évangile, il faut continuer dans l'Évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est le premier élément de l'Évangile. C'est que Christ est mort pour nos péchés. Il a payé le prix pour nos péchés, pour nos faillites, pour notre rébellion. Il a payé le prix. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et donc, quelques-uns sont morts. Alors, il faut faire attention à ceux dont la plupart sont encore vivants. Pourquoi est-ce que Paul dit ça? C'est en fait une vérification du fait que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il leur disait, allez demander à quelqu'un. Ils vivaient encore dans la génération où ils pouvaient aller demander à quelqu'un qui avait vu le Christ ressuscité de leurs propres yeux et leur demander, c'est vrai, comment ça s'est passé? Alors, si c'était une fable, si Paul avait inventé son évangile, il n'aurait jamais pu dire ça. On continue. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Il explique l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. C'est ça l'évangile. Il est mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On voit que avant qu'il y ait des disciples qu'on puisse envoyer prêcher l'évangile, avant qu'il y ait des apôtres qu'on puisse leur dire, allez dans tout le monde prêcher la bonne nouvelle, avant qu'il y ait une église qui avait une mission, avant tout ça, il y avait un Dieu qui était en mission. Il y avait un Dieu qui était en mission. Et la mission, sa mission, c'était nous. La mission de Dieu, c'est nous. C'est ce qu'il fait en nous. Et la réalité, c'est que notre mission, on l'accomplit, mais on l'accomplit comme lui, il accomplit sa mission en nous. Quand Dieu fait sa volonté en nous, à travers nous, et quand il nous apporte cette nouvelle vie, c'est là qu'on devient capable de prêcher un évangile que les gens puissent entendre. On y reviendra. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On a vu que avant notre mission, avant la mission de l'église, il y avait un Dieu en mission, un Dieu missionnaire. Dieu lui-même était missionnaire. Il est venu vers nous en mission. Jésus a dit à Pierre que c'est lui qui bâtirait son église. Il promet de bâtir son église. Jésus promet de bâtir son église. C'est pas nous qui le faisons. Nous, on peut aller dans le monde avec notre mission de prêcher l'évangile, mais c'est Dieu qui bâtit l'église. Jésus promet de bâtir son église et de telle manière que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus promet de bâtir son église. Alors, on voit ici, Dieu était en mission, il s'est incarné en Jésus, et c'est à travers son humanité qu'il a accompli sa mission, et Jésus continue la mission de bâtir son église. Même après son départ, il continue dans sa mission de bâtir l'église. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est là Dieu en mission. Jésus avait une mission. Il avait pour mission de chercher et de sauver ce qui était perdu. Pour accomplir son but, Dieu s'est incarné. Pour accomplir son but, Dieu s'est incarné. Il est venu vers nous dans la quintessence de l'humanité. Je vous l'ai déjà dit auparavant, mais Jésus était plus humain que tout le reste d'entre nous. Il représentait l'humain d'une façon plus grande que nous, on peut le faire. Parce qu'on a une nature qui est déchue. Alors Jésus représente l'homme parfait. Jésus représente la quintessence de l'humanité. Pour accomplir son but, Dieu en mission, pour accomplir son but, il s'est incarné et est devenu la quintessence de l'humanité. Marc 2, 17. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il est venu appeler les justes, les pécheurs à quoi? Alors quand il parle de justes, c'est ceux qui se croient justes, parce qu'il n'y a aucun qui est vraiment juste. Mais il est venu appeler les pécheurs. Mais il est venu les appeler à quoi? C'est à cette humanité, cette quintessence de l'humanité que Jésus appelle l'homme aujourd'hui. L'humanité pour laquelle il a lui-même payé. C'est à ça qu'il nous appelle. Il nous appelle à être ce qu'il était lui, dans son humanité, je le précise. Alors on voit, l'Église a une mission, mais avant que l'Église ait une mission, Dieu est venu vers nous en mission. Il s'est incarné dans Jésus, la quintessence de l'humanité. Jésus est venu vers nous. Notre Dieu est venu vers nous pour nous appeler à cette même humanité. Dans Actes 1:8, on commence à faire le tour, là, à revenir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un verset qu'on connaît très bien. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez que Jésus ne leur dit pas d'aller témoigner. Jésus ne leur dit pas d'aller témoigner. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit qu'ils seront témoins. Ça va rentrer un peu là. Ça va mijoter pour quelques instants. Jésus ne leur dit pas d'aller témoigner. Il leur dit qu'ils seront témoins. Le faire, c'est une chose. Tout ce qui est le faire, c'est une chose. Mais d'être, c'est une autre chose. Après tout, n'importe qui pourrait aller témoigner. En fait, il y avait, pendant le ministère de Paul, il y avait 7 frères juifs, les fils de Sheva. Comment on dit en français? Sheva? D'accord. Je devrais l'apprendre en hébreu, comme ça je ne me trompe pas. 7 fils de Sheva, ils sont allés, ils ont essayé d'exorciser, merci. Ils ont essayé d'exorciser un démon et ils ont dit au démon, au nom de Jésus, que prêche Paul, sors. Et le démon a répondu, ben Jésus je le connais, Paul je le connais. Mais vous, vous êtes qui? Vous, vous êtes qui? Vous voyez, de faire, c'est une chose. De faire, c'est une chose. Mais d'être, c'est complètement différent. Jésus ne leur dit pas de témoigner, mais qu'ils seront témoins. Ils seront des témoins. On doit, nous aussi... Jésus est venu, Jésus, Dieu en mission, il est venu par l'incarnation et nous aussi, on doit, par l'incarnation, poursuivre notre mission. Qu'est-ce qu'on doit incarner? On doit incarner la vie qu'il nous a montrée. On doit incarner l'humanité réelle que Dieu a imaginée pour nous. Que Dieu a imaginé dans son dessein originel. Alors comment est-ce qu'on incarne cette humanité-là? Ça commence avec une nouvelle naissance. Et je vais vous dire, cette nouvelle naissance, elle suit le modèle, en fait, de l'Évangile. Quand Paul a dit que l'Évangile, c'était la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, la nouvelle naissance, elle se modèle d'après l'Évangile lui-même. Parce que on connaît une mort, un ensevelissement et une résurrection dans notre nouvelle naissance. Dans la repentance, on meurt à soi-même. On meurt à sa volonté pour adopter la volonté de Dieu. Dans le baptême, Paul écrit qu'on est enseveli avec Christ. Et quand on est rempli, baptisé du Saint-Esprit, on a une nouvelle vie par la puissance de Dieu. Alors, ça commence avec une nouvelle naissance. L'incarnation de cette humanité qui va nous faire de nous des témoins, elle commence avec une nouvelle naissance. On devient une nouvelle création, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et c'est suivi d'une vie qui tend continuellement vers cette nouvelle nature. Une vie qui, d'étape en étape, de jour en jour, se modèle de plus en plus d'après la nouvelle nature. Et on se débarrasse de plus en plus du vieil homme, de l'ancienne nature. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette incarnation de l'humanité à laquelle Jésus nous appelle. Dans un certain sens, parce qu'on parle que notre suite, c'est une vie qui tend continuellement vers cette nouvelle nature, dans un certain sens, toute la vie chrétienne est repentance. Toute la vie chrétienne est repentance. On est toujours en train de chercher et de sauver ce qui en nous ne se conforme pas à la nouvelle nature. Vous voyez le parallèle entre ce que Jésus est venu faire, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et nous, on est en train de chercher et de sauver tout ce qui en nous ressemble à la nouvelle nature. Dans un certain sens, toute la vie chrétienne est repentance, de chercher et de sauver ce qui en nous ne se conforme pas à la nouvelle nature. Quand on suit Jésus, quand on imite Jésus, on incarne une humanité authentique. Quand on suit Jésus, on incarne une humanité authentique. Ce qu'on était avant la nouvelle naissance, c'est pas réel, c'est pas ce qu'on était censé être. C'est à partir de ma nouvelle naissance que j'ai commencé à découvrir ce que Dieu voulait faire de moi. Ce que Dieu voulait que je sois. En vivant cette vie, on est des témoins. En fait, par nos vies elles-mêmes, on évangélise. Si on est vraiment en train d'incarner cette humanité authentique à laquelle Jésus nous appelle, on est des témoins. Les gens voient la différence. Par nos vies elles-mêmes, on évangélise. C'est pour ça que c'est dangereux. Et je sais qu'on fait attention de ne pas le communiquer de cette manière-là, mais c'est pour ça que c'est dangereux quand on réduit l'évangélisation à une certaine tactique. Le frère Novaki, par exemple, quand il parlait des invitations dimanche, il a dit qu'il y avait une invitation et de la donner à quelqu'un avec qui vous avez une relation. Quelqu'un que... C'est là où existe... Un rapport pour que ça puisse servir de pont entre l'Évangile et cette personne, entre vous et cette personne. C'est pour ça que c'est très dangereux quand on réduit l'évangélisation à une certaine tactique. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent, il y a des chrétiens qui pensent l'évangélisation c'est ça, c'est de faire cette certaine chose. L'évangélisation est censée se faire à travers nos vies entières. C'est-à-dire, il y a des exemples. La distribution des traités, oui. Les invitations, oui. Les études bibliques, oui. Mais l'évangélisation, c'est aussi nos bonnes œuvres. Notre volontariat dans la communauté, par exemple. Notre évangélisation, ça peut-être ça veut dire appartenir à un club. Un club toujours en harmonie avec notre nouvelle vie, je veux le préciser. Un club qui est toujours en harmonie avec notre vie chrétienne. Mais ça peut être appartenir à un club. Peut-être vous avez... À vous de choisir un exemple. Mais c'est l'évangélisation. Si votre vie tend vers cette humanité authentique, simplement d'être dans ce milieu, vous êtes en train d'évangéliser. Évangéliser, c'est nos bonnes œuvres, c'est appartenir peut-être à un club. Évangéliser, ça peut être aller boire un café avec quelqu'un. Évangéliser, c'est nos gentillesses de tous les jours. Notre façon de réagir aux circonstances. Alors, est-ce que je l'ai inventé, ça? Pour vérifier, Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Père est glorifié par les bonnes œuvres des chrétiens. Parce que c'est l'évangile qui est la source de ces bonnes œuvres. 1 Corinthiens 3, versets 4 à 7. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Qu'est-ce qu'on lit ici? C'est que l'évangélisation est coopérative aussi. L'évangélisation est coopérative aussi. C'est Dieu qui fait croître. En fait, les gens sont en train de parler aujourd'hui d'évangélisation en réseau, ou de réseau d'évangélisation. C'est-à-dire, c'est en partenariat qu'on évangélise notre communauté. Il y a des gens qui ont des contacts dans certains milieux, et il y a d'autres qui ont une certaine fermeté et qui ont peut-être des connaissances dans certains domaines ou qui peuvent être de bons conseillers. Et celui qui a le contact, il reçoit l'aide de celui qui peut conseiller la personne. L'évangélisation en réseau. L'évangélisation est coopérative. C'est Dieu qui fait croître. Alors la question se pose à ce point-là, comment participer? Comment participer? Comment est-ce que moi je vais aller? La Bible me dit clairement, le Seigneur me dit clairement, allez dans tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Comment est-ce que moi, je vais participer? Comment vais-je aller, moi? Comment est-ce que je vais aller? Comment participer? Distribution des traités, c'est aller. Invitation, inviter quelqu'un à l'église, c'est aller. Amener quelqu'un à l'église, c'est encore mieux. Inviter, c'est bien. Amener, c'est encore mieux. Les études bibliques à domicile, c'est aller. Mais aller, c'est aussi d'autres choses. Comment est-ce que je peux participer d'autrement? Prier. Je peux prier. Matthieu 9, versets 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prier. La seule requête de prière de Jésus... Dans la Bible, c'est la seule que vous trouverez. Il a une requête de prière. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Comment est-ce que je vais participer? Je vais prier. Comment est-ce que je vais participer? Je vais donner. La réalité, c'est que tout le monde peut donner quelque chose. Il faut simplement s'y engager. 3 Jean, versets 5 à 8. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Verset 7. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. C'est-à-dire que quand je supporte avec mes finances quelqu'un qui va en mission pour le nom de Jésus-Christ, ses œuvres deviennent mes œuvres. Ses œuvres deviennent mes œuvres. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. On est ouvriers avec eux, on est collègues quand on donne. Et aller aussi, c'est aller. Aller, c'est aussi aller. La Bible parle d'une catégorie de ministres qui sont des évangélistes. Proprement parlé, ce sont ceux qui amènent l'évangile où il n'était pas auparavant géographiquement. Bibliquement, c'est ça un évangéliste. C'est celui qui emmène l'évangile là où il n'était pas auparavant. Où pensez-vous que le Seigneur va trouver ces évangélistes? Où est-ce que vous pensez que le Seigneur va trouver ces évangélistes? Est-ce que c'est parmi nous ou autre part? Est-ce qu'on attend que le Seigneur les amène d'autre part? Ou est-ce que le Seigneur va y trouver ici les évangélistes? Ceux qui vont aller et prêcher l'évangile où ils n'étaient pas auparavant. Qui va aller en mission intérieure? On va peut-être dire certains sont déjà partis, mais on a un pays de 65 millions d'habitants. Des 7 métropoles en France avec 1 million ou plus d'habitants, 4 sont encore sans église. Où est-ce que Dieu va trouver les évangélistes pour ces métropoles? C'est dans nos églises, c'est ici. Non seulement ça, mais il y a des villes et des villages tout autour de nous où on pourrait avoir des études bibliques hebdomadaires. Qui pensez-vous que le Seigneur appelle à faire ça? Vous pensez que vous ne pouvez pas le faire? Vous avez raison. Mais je ne peux pas le faire non plus. Mais on peut tous faire un pas en avant en faisant confiance à Dieu. Je ne m'attends pas à pouvoir le faire. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui fait croître. C'est pas moi. Vous pensez que vous ne pouvez pas? Vous avez raison, mais je ne peux pas non plus. C'est Dieu qui fait croître. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est pas moi. Tout ce que je peux faire, c'est mettre un pas en avant et faire confiance à Dieu. La réalité, c'est que vous avez toute une église autour de vous. Vous avez des leaders qui sont là pour vous aider dans tout ce que vous pouvez et voulez faire dans l'évangélisation de notre monde. Alors ce soir, je veux simplement vous inviter à prier. Peut-être maintenant, quelques instants, mais à continuellement prier, à prier chez vous. Je vous invite à prier, premièrement, la requête du Seigneur Jésus pour des ouvriers. Surtout ceux qu'on a appelés des évangélistes. Que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Deuxièmement, que vous priez à propos de votre participation financière à la mission. La mission intérieure aussi bien que mondiale. Et troisièmement, que vous priez, Seigneur, où est mon champ? Je vais prier pour mon champ, là où Dieu va me mener pour incarner la nouvelle vie que j'ai dans l'esprit. Que ce soit servir plus où on est, ou que ce soit des nouvelles portes que Dieu va ouvrir. Je veux prier pour mon champ. Amen. Priez la requête de Jésus pour les ouvriers, ma participation financière et pour mon chant. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un instant, se lever ensemble et se tourner vers le Seigneur? Alléluia, Seigneur.
Alléluia.